Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une destinée hors du commun que Franck Ferrand a choisi de nous présenter aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Si l'on devait élire le plus grand explorateur de tous les temps, nul doute que son nom figurerait sur la liste des favoris. James Cook a contribué largement à repousser les limites du monde connu. Pour nous parler de ce marin au très long cours, j'ai convié un historien de la marine que vous connaissez bien maintenant, le professeur Patrick Villiers.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Edouard. Alors je vous la lis telle quelle. Bonjour Franck, habitant à la campagne dans l'Oise, je sors rarement sans mon parapluie. Pourriez-vous nous expliquer l'origine de cet objet très pratique?
Ben voilà une question tout à fait de saison. Certaines de nos régions hier ont pris plus que des averses. Pour le moment, je vous propose d'accompagner le capitaine Cook dans son dernier voyage.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous avons Bougainville et accessoirement la Pérouse, les Anglais ont Cook. Il a tout découvert cet homme-là, la côte est de l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, les îles Sandwich, il a cartographié la Nouvelle-Zélande. Il a également été le premier à franchir le cercle polaire antarctique. Et pourtant, James Cook n'était pas destiné, et pas du tout, à devenir l'un des plus grands explorateurs, un personnage à la fois respecté et cruel. Nous allons voir ça tout à l'heure, évidemment, avec Patrick Villiers. Il n'était pas né fils de marin, il était né fils de paysan, dans une famille nombreuse, qui plus est. Alors nous verrons comment ce garçon de taverne qu'il était a fini par s'embarquer comme mousse à bord d'un charbonnier. James Cook est d'abord matelot dans la Royal Navy. Il va grimper une à une les échelons qui vont le mener, bien entendu, à la première place. Il sera officier marinier, il va partir pour deux expéditions. Il est, disons-le, l'homme des relevés hydrographiques qui vont permettre, et ça c'est très important, c'est un des aspects qu'on ignore généralement, mais ce sont les cartes marines. C'est une chose de faire un relevé des terres, c'en est une autre de faire un relevé des fonds marins. Et il va permettre une meilleure connaissance de l'océan Pacifique. Car Cook est de ceux qui apportent des réponses aux grandes questions de leurs contemporains. Et la grande question qui, à l'époque, hante les navigateurs et les savants, et ça fait longtemps, on en a parlé déjà, je vous en ai même parlé quand on évoquait l'autre jour Magellan. Donc, la grande question, c'est celle du passage, du grand passage. Est-ce qu'il existe, au nord du continent américain, un passage qui permettrait d'aller directement du Pacifique à l'Atlantique, ou vice-versa, bien entendu? Cette question, James Cook est bien décidé à y répondre. Il se propose donc pour commander une nouvelle expédition qui sera pour lui le troisième grand voyage. Un voyage dont vous aurez compris que son issue sera cette fois tragique. Le 12 juillet 1776, ça c'est une date qui évidemment ne peut pas laisser indifférent, on est exactement une semaine après la déclaration d'indépendance des colonies américaines. Je ferme très vite cette parenthèse. En juillet 76, donc, un navire quitte le port de Plymouth. Il faut imaginer une certaine effervescence sur les quais, bien entendu. Le navire en question s'appelle Resolution. Je dis bien pas Vaux, hein. Resolution. Il était déjà présent lors de la seconde expédition de Cook. Un autre bâtiment, le Discovery, rejoindra plus tard l'expédition. Il faut vous dire que c'est un voyage qui a demandé des mois de préparation. À bord, il y a toutes sortes de personnes, de scientifiques. Il y a des peintres, il y a des chirurgiens, des astronomes. On a fait monter du bétail aussi, hein, des vaches, des moutons pour nourrir l'équipage et aussi pour servir éventuellement de monnaie d'échange. De même d'ailleurs que tous ces espèces de cadeaux, cette bimbeloterie qui peut servir pour essayer d'amadouer les habitants des îles traversées dont on ne sait pas si elles sont toutes civilisées, comme on disait. Parmi les passagers se trouve un Tahitien, il s'appelle Omai. Il doit servir d'interprète avec les peuples polynésiens et après avoir embarqué au cours du deuxième voyage de Cook, il a été le premier océanien à visiter le Royaume-Uni. Omai doit rentrer à Tahiti au cours donc de ce troisième voyage. Tout le monde est motivé, très motivé, par cette aventure. Alors si j'avais les idées mal placées, je vous dirais que c'est normal, puisque le Parlement britannique a quand même voté une récompense de 20 000 livres sterling pour ceux qui accompliraient pour les vaisseaux qui accompliraient cette expédition. Donc bien entendu, c'est très attrayant. Au moment du coup d'envoi de ce troisième voyage de Cook, notre capitaine a 47 ans. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un personnage respecté. Il est bien sûr tout à fait respecté. Il est membre de la Société Royale de Londres. L'amirauté lui a témoigné de sa satisfaction lors de sa deuxième expédition. Cook est capitaine de vaisseau, membre de la Société Royale, je vous l'ai dit. Il vient d'être peint par le portraitiste à la mode, Nathaniel Dance. Et d'ailleurs, on voit ce portrait où il n'a pas l'air tellement commode sur la couverture de la biographie que Anne Ponce lui consacre chez Perrin. Cook a l'air fier dans sa tenue de capitaine. Il a l'air pour le moins grave, sous la perruque à catogan, avec l'œil sévère, le nez fort, le menton très volontaire. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. C'est aussi un père comblé, il faut le dire. Il a trois enfants, trois garçons, James, Nathaniel et Hugh. Alors me direz-vous, pourquoi cet homme comblé d'honneur, qui a tout ce qu'il voulait et qui a déjà fait une réussite extraordinaire, pourquoi s'est-il porté volontaire pour un troisième voyage, alors qu'en plus personne ne lui demandait rien? L'expédition était en cours de préparation, mais on n'avait pas pensé à lui pour la diriger. Eh bien, c'est qu'il veut être, il veut absolument, il tient à être le premier à partir du Pacifique pour trouver le grand passage dans le Nord-Ouest américain, même s'il a conscience, bien sûr, d'un possible échec. Quelques jours après avoir accepté sa nouvelle mission, il écrit à un de ses amis « Il est certain que j'ai renoncé à une situation de tout repos pour un voyage tumultueux et peut-être risqué. Le peut-être est de trop. » Le tracé de la nouvelle mission est très précis. Les deux navires doivent d'abord rejoindre les îles arctiques. Elles doivent au final rejoindre les îles arctiques qui sont situées donc au nord du Canada. Mais pour ça, au lieu de passer par l'Atlantique, tout naturellement, j'allais dire, il s'agit d'aller faire le tour de l'Afrique, passer par le Cap de Bonne-Espérance, traverser le Pacifique. Au passage, Tahiti servira de lieu de retraite pendant l'hiver. On approvisionnera les navires, on les entretiendra, etc. Et puis on remontera vers le Canada en espérant trouver ce fameux passage. Les premiers mois, disons-le, sont difficiles. D'abord, il pleut à verse dès les premiers jours de traversée. L'un des navires manque de sombrer au Cap-Vert après avoir heurté un récif à la suite d'une erreur d'estimation. C'est un endroit très, très compliqué, très dangereux, ça tous les marins le savent. À la fin de l'année 1776, aux îles Kerguelen, Cook et ses hommes fêtent Noël. Alors on abuse un peu du brandy. Qu'est-ce qu'on mange là-bas au Kerguelen? Du manchot rôti, figurez-vous. Et puis dans les jours qui suivent, alors qu'ils sont en train déjà de faire route vers la Nouvelle-Zélande, le Resolution va subir un grain violent qui va faucher deux de ses mâts. Il y a par ailleurs des manques dans les provisions. L'eau finit par manquer, la nourriture aussi, le fourrage. Et malgré les dispositions qui sont prises contre la grande maladie des marins de l'époque, le scorbut, on peut dire que certains membres de l'équipage sont déjà atteints. Alors on va faire une escale en Nouvelle-Zélande. C'est le moment de traverser le tropique du Capricorne, direction les îles Tonga. Cook arrive avec ses hommes à Tahiti en août 1777. J'ai bien dit à Tahiti, on est dans l'hémisphère sud, ce qui veut dire que le mois d'août, là-bas, c'est le plein hiver.
La bande originale du film Master and Commander, musique de Christopher Gordon. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on reprend la mer avec Franck Ferrand et James Cook.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes à bord du Resolution, sur les traces du dernier voyage de l'explorateur James Cook. Avec son équipage, ils viennent d'arriver à Tahiti, Franck.
Alors à Tahiti, l'accueil est chaleureux, ils connaissaient déjà, hein, bien entendu. D'ailleurs, Omai, vous savez, ce Tahitien qui les avait accompagnés, est débarqué à ce moment-là. Alors on échange les cadeaux habituels, le roi Otu invite l'état-major de l'expédition à une visite de l'île. Et là, cadeau, on les fait assister à un sacrifice humain. Alors c'est un peu du rail, bien entendu, mais Cook n'ose pas intervenir, bien entendu, il ne veut pas se faire mal voir. Et de leur côté, ces hommes, disons-le, passent du bon temps avec les Tahitiennes. Et pourtant, et c'est toujours la même chose avec ces navigateurs, ils ont un mal fou à récupérer leur équipage, parce qu'il faut continuer, bien entendu, il faut reprendre le cours de cette troisième expédition. La route s'annonce encore longue. Fin septembre, donc au début du printemps là-bas, tout le monde repart. Et le 18 janvier 78, après avoir franchi les îles de la Société, Cook et ses hommes jettent l'ancre au large des îles. Mais quelles îles d'abord? Elles ne sont mentionnées sur aucune carte. C'est Terra Incognita. Ils ont mis le pied sur une terre inconnue. Et dès l'aube de ce 18 janvier, une foule d'indigènes accourt. Alors on a un peu peur, évidemment. Cook est étonné parce que la première île qu'il aborde, Kauai, a une végétation luxuriante que domine un volcan haut de 5000 pieds, alors qu'il s'attendait à voir une terre, une étendue vierge. Plus étonnant encore, l'un des chefs et un prêtre viennent se prosterner en signe de respect. Il y a une nuée de canoës qui arrivent de partout, qui enserrent les vaisseaux. Les indigènes ont la tête couverte d'une sorte de cagoule rigide, surmontée d'un toupet à plumes et trouée à l'endroit des yeux. J'avais envie de dire, c'est tout ce qu'ils portent. C'est un peu l'inverse de nous, parce qu'ils ont le visage très couvert, mais sinon, ils sont tout nus. Alors, évidemment, ça intéresse beaucoup nos explorateurs. Et après quelques minutes d'inquiétude, Cook constate que ces insulaires ne sont pas plus menaçants que d'autres. Ils expriment même leur joie, ils chantent, leurs pirogues sont chargées de victuailles, tout va bien. Ils sont également surpris, ces gens, je ne sais pas comment dire, ces autochtones, par l'attitude des Blancs. Notamment lorsqu'ils voient des Blancs qui se mettent à fumer, vous savez, à brûler du tabac comme ça entre les lèvres du fumeur, ils se disent « mais qu'est-ce que c'est ? Cet homme appartient à la famille des volcans ». Cook donne le nom d'île Sandwich à l'archipel. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le premier lord de l'amirauté est le comte de Sandwich. C'est ce qui deviendra plus tard l'archipel d'Hawaï, bien entendu. L'expédition Cook va quitter la nouvelle île quelques jours plus tard. N'oubliez pas que leur obsession à eux, c'est d'aller trouver toujours ce grand passage pour lequel ils attendent la récompense du Parlement britannique. Seulement, Cook perd du temps parce qu'il est là, il analyse les côtes, il baptise un certain nombre de nouvelles terres jusque dans les confins de l'Alaska. Et pendant ce temps-là, la saison avance à grands pas. L'hiver se rapproche. Ce qui est assez étonnant, c'est que personne n'ose rien lui dire à Cook. Il faut vous dire que c'est un homme nerveux, pas facile, qui pique souvent des colère. Tout le monde a en mémoire la manière dont il a réprimé les vols commis par des indigènes dans les tout premiers mois de la traversée. Un témoin nous dit qu'il leur a fait couper les oreilles et les tuer avec du menu plomb ou une balle lorsqu'ils nageaient ou ramaient vers la côte. Vous voyez un petit peu le genre de personnage. Aux îles de la Société, il faut savoir par ailleurs que Cook n'a pas hésité à prendre en otage tous les membres de la famille d'un souverain local, simplement parce que justement ces hommes ne parvenaient pas à remonter à bord, et les matelots fautifs ont été sévèrement punis à coups de fouet, ils ont été mis au fer dans le fond des cales, etc. Vous voyez que Cook est un homme d'une grande dureté. Lorsque ces hommes, par exemple, refusent de manger du morse, parce qu'on a fait un véritable carnage de morse dans ces eaux froides, eh bien, il les punit, là encore, et ce qui devait arriver arrive. C'est-à-dire que comme on n'ose pas le déranger, comme on n'ose pas lui dire que la saison avance, qu'il faudrait prendre le large, eh bien, les navires vont se retrouver face au même obstacle que lors de la précédente expédition, c'est-à-dire face à la banquise. Et là, les matelots sont très inquiets. Cook se ravise, il donne l'ordre de virer de bord, mais il est déjà un peu tard. Le Resolution et le Discovery remettent le cap sur Hawaï. Alors Cook va encore faire preuve de cruauté là, parce qu'il y a des matelots qui refusent de boire une espèce de mixture fermentée destinée à limiter les effets du scorbut. Et comme en représailles, on va dire, Cook remise la barrique de grog au fond de la cale et il fait cruellement fouetter un des esprits forts qui avait été un peu l'âme de la révolte, si je puis dire. C'est intéressant de se dire que le maître d'équipage de Cook, c'est un certain William Bligh qui plus tard sera le capitaine de la fameuse Bounty et qui, à bord de la Bounty, fera preuve de la cruauté que vous savez. Il y a peut-être un rapport entre les deux. Le 17 janvier 1779, au matin, on est donc presque un an jour pour jour après avoir découvert l'archipel d'Hawaï, les vaisseaux de Cook mouillent sur la côte ouest de la grande île d'Hawaï, dans la baie de Kealakekua. Alors là, je vais essayer, hein, de Kealakekua, ce qui veut dire en hawaïen le sentier des dieux. Et Cook raconte: nulle part, au cours de mes voyages, je n'avais vu telle quantité de gens rassemblés en un même endroit. Les rivages étaient couverts de spectateurs. Il y en avait plusieurs centaines qui nageaient autour des navires comme des bancs de poissons. Mais l'accueil est cordial. Et l'arrivée de Cook, il faut vous le dire, coïncide avec les grandes fêtes, les rituels en l'honneur du dieu Orono, un dieu qui est censé fertiliser les terres et qui n'est représenté que comme un dieu blanc. Bah, il se trouve que Cook est blanc lui-même et qu'on va le prendre, on a déjà vu ça dans le passé, on va le prendre lui-même pour un dieu.
Tous les jours, vous pouvez réagir et poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Ça se passe sur Facebook, sur la page Au cœur de l'histoire. Vous pouvez également tweeter avec le hashtag ACDH. Restez avec nous, la dernière aventure de James Cook, c'est à suivre sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck, vous nous emmenez sur les traces du tout dernier voyage de l'explorateur britannique James Cook. Ça y est, il vient d'arriver à Hawaï.
Oui, ben il va réappareiller le 4 février 1779. Les deux navires de Cook repartent, si je puis dire. Seulement là, il y a un violent typhon qui s'abat sur les deux bateaux de l'expédition. Les voiles sont arrachées, le Resolution en ressort avec un mât fendu. Et Cook et ses hommes-là n'ont pas le choix. Après 3 jours de mer, les voilà qui font demi-tour, si je puis dire. Ils doivent rallier Karakawa. À leur arrivée, la plage est là qui s'étend complètement déserte. Il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a personne, comme si le typhon avait tout anéanti. C'est une baie sans personne sur laquelle on aperçoit juste de rares pirogues qui glissent le long de la côte. C'est une ambiance assez tendue, assez étrange. D'ailleurs, ça va se vérifier. Dans l'atelier des réparations installées à terre, des outils disparaissent, des matelots encorvés d'eau douce sont molestés, d'autres reçoivent des jets de pierre. Et puis le 14 février à l'aube, les marins découvrent qu'un canot du Discovery a été dérobé. Alors Cook se rend chez le roi avec quelques-uns de ses lieutenants. « Notre embarcation doit nous être rendue. Vous allez venir à mon bord et y resterez jusqu'à cette restitution », dit le capitaine Cook. Thierry Aubou, qui est le roi, accepte de partir comme otage. Finalement, Cook se ravise et il dit qu'il ne prendra pas le roi comme otage. Thierry Aubou affirme qu'une enquête va être effectuée, qu'on trouvera les voleurs, que le canot sera rendu, etc. Cook s'estime plus ou moins satisfait de cette réponse. Il marche vers sa chaloupe. Il remarque que des groupes indigènes quand même viennent d'arriver sur la plage. Il y a une pirogue là notamment qui est chargée d'hommes masqués qui ont l'air très énervés. Cook est prêt à s'embarquer lorsqu'un coup de feu claque. L'un des hommes de Cook hein, a voulu faire peur aux occupants de la pirogue. C'est lui qui a donné ce coup de feu. L'un des hommes est mort et aux cris, aux lamentations des indigènes, Cook comprend que la victime est un des chefs. Et oui, on peut parler d'une double bavure. Celui qui tire, c'est bon. Les hommes revêtent les nattes, enfin les hommes, les autochtones, hein, bien entendu, revêtent les nattes de combat. Ils s'arment de piques et de pierres. James Cook enjambe le bordage du canot. Il est frappé d'une pierre dans le dos. À ce moment-là, il se retourne furieux. Il va sortir son pistolet et il tire une volée de plomb de chasse. Un Hawaïen tombe. Les autres se ruent sur Cook. Il faut imaginer ces gens qui se ruent en hurlant, en criant. Une pierre plus grosse que la première va le frapper. Il était debout au bord de l'eau. Hein. Il est frappé à la tête. Cook perd l'équilibre. À ce moment-là, il est poignardé. Il tombe le visage dans la mer et en le voyant tomber, les insulaires poussent un cri général. C'est comme une sorte de cri de guerre. Et à ce moment, le corps de James Cook va être mis en pièces et il sera, je dis bien, dévoré par les Hawaïens. Comme le fait remarquer un de nos auditeurs, c'est quand même un comble d'avoir été mangé tout cru lorsqu'on a découvert les îles Sandwich. Je ferme cette petite parenthèse. Le 15 février, on est le lendemain de la mort de Cook, vers 8h du soir, au milieu d'une épaisse obscurité, on entendait une pirogue qui pagayait vers le navire, écrit le lieutenant King qui a raconté toute cette histoire. Cette embarcation était montée par 2 hommes qui se déclarèrent amis, ajoutant qu'ils avaient pour moi quelque chose qui venait du capitaine Cook. En arrivant à bord, ils se jetèrent à nos pieds avec toutes les apparences de la plus grande crainte. L'un d'eux était l'homme tabou qui suivait tout le temps le capitaine Cook. Il nous dit qu'il avait apporté une partie de son corps. Il nous donna alors un petit ballot qu'il tenait sous le bras. Il est impossible de décrire l'horreur dont nous fûmes saisis en déployant l'étoffe où se trouvait enveloppé un morceau de chair d'environ 9 ou 10 livres. C'était là, nous dit-il, tout ce qui restait du corps. Le reste avait été mis en pièces et brûlé, et l'on peut ajouter, et mangé. Mais la tête et tous les os, excepté ce qui faisait partie du tronc, tout ça était resté en possession du roi Thiriobou et des autres chefs. Le 20 février, 6 jours après la mort de Cook, les vêtements et tous les autres restes de Cook ont été rendus. Le crâne scalpé, la chevelure, les os manquants, le canon de son fusil, les souliers, des petits objets. Inutile de vous dire qu'on n'a pas tardé à appareiller, bien entendu. Il était 5 heures du soir quand les derniers honneurs furent rendus à Cook selon le rituel réservé au capitaine mort en mer, écrit Anne Ponce. Les vergues du bâtiment croisées dans le désordre, le pavillon et sa flamme amenés à mi-mât et le glas de la cloche du navire étouffé par les tirs des canons. Peu avant 6 heures de l'après-midi du 21 février, le cercueil fut immergé dans les eaux de la baie. Bonjour Patrick Villiers.
Bonjour.
Nous allons revenir avec vous, après avoir évoqué la mort, sur la vie du capitaine Cook. Et le moins qu'on puisse dire est qu'elle nous réserve un certain nombre de surprises encore.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Original du film, un court extrait de Master and Commander sur Europe 1. Musique signée Christopher Gordon. Cet après-midi, nous sommes sur les traces du capitaine James Cook avec votre invité Franck Ferrand, Patrick Villiers, professeur des universités, doctoresse lettres en histoire maritime et vice-président de la Société française d'histoire maritime.
Alors il faut dire, Patrick Villiers, que tout de même les deux bâtiments, Resolution et Discovery, sont revenus à Londres. Hein. Ils voguaient sur la Tamise le 4 octobre 1780 et qu'à Hawaï, il semblerait que les hôtes de Cook, enfin ce qui en est resté, fasse l'objet d'un véritable culte. Il y a eu une sorte de divinisation de Cook après sa mort.
Oui, parce que, en fait, vous l'avez parfaitement dit, lorsqu'il vient pour la première fois, il est considéré comme le dieu de la paix. Quand il revient, il est considéré comme un dieu de la paix ressuscité qui ne devrait pas être là. Donc, c'est les partisans du dieu de la guerre. Il est l'intrus. Je veux dire qu'il a ressuscité. Il aurait dû disparaître. Et donc, à la fois, quand il revient, qu'est-ce qu'on vient de faire ces blancs qui sont armés, etc. Et de l'autre, le dieu de la paix, qui est normalement est parti pour revenir dans 6 mois, il revient et perturbe tout le cycle théologique. Donc, la situation est plus que tendue. D'ailleurs, il le comprend très bien.
Mais qu'est-ce qu'il est allé faire à terre pour récupérer un malheureux canot, quand même?
Ben, parce qu'en fait, ce n'est pas un malheureux canot.
Ah, voilà. Bon,
sur un navire de découverte ou sur un navire de guerre de cette époque, pensez par exemple à l'Hermione d'aujourd'hui, eh bien on a 2 canots uniquement pour sauver l'équipage. On a le grand et le petit canot. Là, il s'est fait prendre son grand canot, c'est-à-dire que s'il y a naufrage, ça fera le Titanic. Hein. Il y en aura la moitié de l'équipage qui a aucune chance de s'en sortir. Hein.
Évidemment, le caractère du capitaine Cook, on l'a compris, n'était pas moulant, si je puis dire. Il punissait tout et tout le monde. Il avait la gâchette facile. Et pourtant, il y a quelque chose de très touchant dans l'attitude de ces différents indigènes, hein, à peu près partout où ils abordent, c'est qu'ils se servent à bord, mais ils n'ont pas l'impression de voler. Ils trouvent un objet leur plaît et ils le prennent simplement. Ça devait faire partie de leurs habitudes.
Alors en fait, il faut bien comprendre que nous sommes en découverte du Pacifique. Et il y a une rivalité entre la France et l'Angleterre, c'est Bougainville contre Cook, si vous voulez. Et c'est Bougainville qui, le premier, trouve Tahiti. Évidemment, Cook revient à Tahiti. À Tahiti, ça s'est très bien passé. Bon. Ensuite, si vous remontez, si vous regardez la carte, parce que c'est passionnant de regarder ça, il remonte plein nord et il franchit l'équateur. Et donc, cette fois-ci, on est dans l'hémisphère nord. Hein. Donc, c'est plus le même climat. Mais surtout, ces îles Hawaï, elles sont d'une densité de population extraordinaire.
Voilà,
c'est
ouvert,
ça. C'est le choc aussi là-dessus.
Je n'ai pas eu le temps, là, dans le récit, de lire les passages du journal de Cook où il décrit tout ça. Il est particulièrement intéressé par la question des populations locales. local, bien entendu. Hein. Il les observe avec beaucoup d'acuité, il faut le dire.
Complètement. Et d'autre part, il a des savants à son bord. Donc tout ce beau monde est passionné. C'est un problème de linguiste, un problème de civilisation, un problème d'échange. Mm-hmm. Et Cook, même s'il est très violent avec son équipage, essaye d'avoir des rapports modérés avec les populations qu'il aborde. Mais le vol du grand canot, c'est impossible. Le vol d'un certain type d'armes, ce n'est pas possible. Donc, Cook, il est partagé entre deux sentiments. Se faire respecter et en même temps, il sait bien qu'il est un intrus. Bougainville aura le même problème. Hein. Bougainville, un petit peu, victime de ces belles dames de Tahiti, se fait piquer son sextant. Hein, il va faire comment pour rentrer? Il fait tout pour le récupérer.
Hein. Mais pourquoi est-ce qu'ils volent tout ça, tous ces indigènes?
Je crois que c'est la curiosité et l'échange.
Oui, c'est ça.
D'autre part, ce qui les intéresse beaucoup, c'est l'acier, le fer, la poudre et les fusils qu'ont les navires de Cook ou de Bougainville.
On va revenir dans un instant sur la carrière de Cook, sur son ascension, sur ses deux premiers voyages, etc. Mais pour bien finir de cerner le personnage, j'ai eu l'occasion de montrer à quel point il était sévère. Hein. On fouettait beaucoup sur les ponts de ses navires. Est-ce qu'il était plus sévère que d'autres ou est-ce que c'était l'habitude à cette époque?
Alors c'est là où il y a une différence essentielle entre la marine française et la marine anglaise.
Mmh.
Dans la marine française, le fouet est utilisé de manière très très rare. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des châtiments physiques, qu'on donne la cale et ça, mais c'est quand même très très rare. La plus grande punition sur un navire de guerre français, c'est le retranchement de vin, c'est-à-dire qu'on vous supprime le vin. Voilà.
Oui.
Et puis le recrutement de l'équipage.
C'est-à-dire que pour un marin, le vin c'est important.
Hein, français, marin français.
Marin français, oui.
Et d'autre part, le mode de recrutement est totalement différent entre la France et l'Angleterre. En France, en Angleterre, c'est un recrutement plus
dans
qu'un volontaire.
Oui. Oui, voilà.
Alors qu'en fait, les équipages français sont plus des équipages d'élite.
Volontaires. Oui.
Et de volontaires. Donc c'est assez différent. D'autre part, il faut bien voir qu'au troisième voyage de Cook, on est à peu près persuadé que Cook était très affaibli, il avait peut-être même un début de maladie mentale. Enfin, il a un comportement qui est très très bizarre. Il faut demander à un neuropsychiatre d'analyser ça, mais il a un comportement tout à fait
irascible.
Ce qui n'est pas le cas dans les deux premiers voyages.
Oui. Et notamment, il y a cet épisode de la banquise qui est assez pathétique, puisqu'on le voit s'attarder dans une mer qui devient chaque jour plus dangereuse, sans que ses seconds, sans que son équipage n'ose l'avertir de ce qui se passe, en fait.
Alors, justement, ce qui est très intéressant avec Cook, c'est que il gagne ses premiers galons en explorant Terre-Neuve, en faisant la cartographie du Saint-Laurent. C'est-à-dire que c'est quelque part, moi je dirais, c'est un homme de la glace.
Et oui.
Donc, il est pas du tout effrayé par cette banquise.
Il est habitué, en fait.
Et puis alors, son idée de faire manger du morse, mais c'est tout à fait intelligent, c'est de la viande fraîche.
Et grasse, qui plus est.
Et grasse. Donc, c'est comme la viande de baleine ou comme la viande de phoque. Donc, à Terre-Neuve, il a vu les indigènes et les hommes et les gens de l'époque le manger. Donc, lui, il veut forcer son équipage. Parce qu'il y a une chose extraordinaire dans les voyages de Cook. C'est la quasi-absence du scorbut pendant pratiquement un an et demi. À la fin,
oui, l'équipage. On repousse très loin les limites, en fait.
Et donc, Cook est passionné de soigner les gens, etc. Et ce sont des changements d'habitude alimentaire qu'il faut, quelque part, soyons clairs, imposer par la force à l'équipage.
Alors, je l'ai dit pour commencer cette émission, Monsieur Cook, James Cook, n'est pas du tout d'une lignée de marins. Il n'était pas destiné à prendre la mer. C'est un terrien, cet homme-là, et d'une famille très modeste, qui plus est.
Voilà, c'est un terrien d'une famille très modeste qui se fait remarquer quand même assez vite par le fait que il apprend quelque part et donc à terre à lire, à écrire et manifeste un talent pour les mathématiques.
Il est très intelligent.
Voilà, intelligent et donc pour une raison que je connais pas très bien, il embarque sur des bateaux pêcheurs. Sur les bateaux pêcheurs, on remarque tout de suite son talent et il passe tout de suite sur un navire de commerce. Et en l'espace de 2 ans, il arrive au grade de lieutenant, c'est-à-dire en fait de capitaine. Bon. Mais c'est la guerre et c'est la guerre de 7 ans. Et Cook pense qu'il peut faire carrière dans la Royal Navy. Donc il s'engage dans la Royal Navy, mais là il faut qu'il reconquiert ses galons.
Eh bien,
c'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Et d'autant plus qu'on est quand même dans des milieux, dans cette marine, qu'elle soit britannique ou française, où la noblesse s'arroge la part du lion, en fait. Hein. On n'est pas habitué à avoir des gens sortis du rang de cette manière.
Alors, il y a une petite différence avec la marine française et la marine anglaise, c'est que la marine anglaise a moins de marins savants.
Mm-hmm.
Et en fait, le capitaine sur un navire de guerre anglais délègue au master le commandement du navire. Bon. Alors que dans la marine française, eh bien, même si on a un pilote à bord, le capitaine ou le second savent parfaitement lire les cartes et commander. Et donc, quelque part, Cook est un marin plus savant que les marins de la noblesse anglaise.
Alors il y a évidemment en cette période, dans ce milieu du XVIIIe siècle, un très grand intérêt scientifique, un grand intérêt cartographique, on est au siècle d'or de la cartographie, mais il y a un intérêt politique également à ces expéditions et à ces explorations. Il ne faut jamais le perdre de vue, nous n'avons presque l'impression que ce sont des expéditions qui, comme aujourd'hui, sont quasi désintéressées. Ce n'est pas le cas du tout. Il y a une volonté politique de récupérer le plus de territoire possible.
Alors les Français, rappelons-le, avec la guerre de 7 ans, viennent de se faire chasser du Canada et de l'Inde.
Et le traité de Paris, 1763.
Donc ils ont tout intérêt à explorer le Pacifique, mais aussi il y a un mythe, et c'est là où c'est très intéressant, il faut prendre son atlas, mais voir que le Pacifique Sud est vide par rapport à l'Atlantique Nord. Et donc les gens de l'époque, et notamment Dalrymple, qui est le grand savant anglais, sont persuadés qu'il y a un continent.
Voilà.
Et donc, la première mission de Cook, c'est rechercher ce continent antarctique que l'on ne trouvera pas. Kerguelen va trouver les fameuses îles Kerguelen. Oui. L'explorateur français Marion va trouver les îles Marion. Mais en fait, on trouve du vide. Mais les 40e rugissants, parce que le premier voyage de Cook, c'est un voyage à l'envers. Hein. Donc, il faut affronter les 40e, donc des vagues terribles, et en cherchant où est ce continent mythique. Donc, Cook, dès le départ, se révèle un très brillant navigateur.
Oui, et quelqu'un qui a de l'intuition, bien entendu, et qui ne manque pas de ténacité, on l'aura compris, et une grande suite dans les idées. Via Twitter, Thierry nous signale que la maison natale de James Cook, qui se trouvait autrefois dans le Yorkshire, a été démontée en 1933, démontée pierre par pierre, et rebâtie à Melbourne, où on peut la visiter aujourd'hui.
Franck Ferrand, 14h-15h, sur Europe 1.
Il était brillant, il était navigateur, il a découvert les îles Sandwich. Cet après-midi, on découvre le parcours de James Cook avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Patrick Villiers, professeur des universités, docteur S lettres en histoire maritime et vice-président de la Société française d'histoire maritime.
On a bien compris maintenant, Patrick Villiers, que James Cook n'était pas un marin d'origine, d'une certaine manière. C'est un autodidacte qui s'est tourné vers la Royal Navy parce qu'on payait bien les marins à l'époque. On est en 1755 hein, quand il s'engage. Et là, c'est la pleine guerre de 7 ans, bien entendu. Il va faire une première expédition contre Québec. Et là, il manifeste un talent tout particulier qui est celui de cartographier. Ça, c'est assez étonnant de la part d'un jeune marin qui n'a pas été formé, si je puis dire.
Complètement. C'est sa grande originalité. Alors, il faut bien comprendre que les Anglais veulent remonter le golfe du Saint-Laurent. Évidemment, les cartes sont secrètes. Et il faut, pour attaquer Québec, que l'armée marine anglaise envoie non seulement des vaisseaux, mais aussi des navires marchands chargés de troupes. Donc, la cartographie du Saint-Laurent est essentielle. Et c'est grâce à la cartographie de Cook que l'expédition va réussir avec la fameuse défaite que vous connaissez, la défaite française des plaines d'Abraham, victoire anglaise et à l'inverse. Quoi.
Oui, bien sûr.
Et donc il se fait remarquer par son talent et on va lui confier ensuite l'exploration de Terre-Neuve.
Voilà, parce que bien entendu la France perd la guerre de 7 ans. Quand je dis la France, c'est la France et l'Autriche, mais enfin c'est pour ce qui concerne les océans, c'est plutôt la France qui compte en l'occurrence. Et il est question de trouver de nouvelles terres. C'est ce que vous nous disiez. Le roi Louis XV va confier à Bougainville la mission de coloniser, en quelque sorte, de découvrir le plus possible de terres vierges qui vont devenir françaises. Les Anglais ne se laissent pas faire. Donc Bougainville part en 63 et Cook quelques années plus tard seulement.
Oui, alors d'ailleurs, le premier épisode de Bougainville, c'est de devoir rendre les Malouines aux Espagnols, que les Anglais vont revendiquer immédiatement, qui deviennent les fameuses Falklands. Voilà. Donc on a bien un problème de rivalité. La deuxième chose, c'est que quand Bougainville fait son exploration et découvre Tahiti, évidemment, il va ramener ses découvertes, on va publier un ouvrage, les scientifiques vont raconter. Mais Cook, qui connaît parfaitement les travaux de Bougainville, se plaint que Bougainville n'ait pas donné les positions exactes des îles. Hein, parce que la France a débarqué. Non seulement c'est pas fair play, mais chacun se dépêche de mettre une croix en disant découvert par le roi de France ou découvert par le roi d'Angleterre.
Voilà. En tout cas, au nom du roi de France ou au nom du roi d'Angleterre, et le premier lord de l'amirauté et la Royal Navy vont choisir cet obscur James Cook pour mener des expéditions qui normalement auraient dû être confiées à des marins beaucoup plus expérimentés et beaucoup plus gradés. Ça, c'est intéressant. Il n'est pas capitaine de vaisseau, Cook, à l'époque.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que en 1740, il y a eu un tour du monde fait par les Anglais. C'est le tour du monde de l'amiral Hanson. Hanson, futur ministre de la marine anglaise, on dit premier lord de l'amirauté. Mm-hmm. Mais c'était un raid de pillage. Et si on regarde la carte, le raid de l'amiral Hanson se fait grosso modo au niveau de l'équateur. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver aux Philippines, il faut intercepter le galion de Manille qui est chargé de richesses extraordinaires. Et donc quand il revient, d'une part, il a trouvé les cartes pour naviguer dans l'Indonésie, Hanson, mais d'autre part, il est richissime. Bon. Donc c'est bien un raid de militaire, c'est un raid de pillage lié à la cartographie. Tandis que là, il s'agit de cartographier. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est le rapport qu'il va avoir avec les savants, car il a embarqué des savants avec lui.
Il s'entend très bien avec eux.
Voilà, et c'est ça qui est assez paradoxal, parce que justement, ces savants pourraient avoir un certain mépris pour lui, parce qu'il est sorti du rang, eux-mêmes
sont issus d'un noblesse. Universités, voilà. Enfin, bien sûr.
Et donc, on va au contraire parfaitement le respecter. Et n'oubliez pas qu'au deuxième voyage, on le récompense en le nommant membre du collège de Greenwich. Greenwich, incroyable, l'observatoire, l'hôpital italien. Donc on lui avait donné, et ensuite on le propose pour l'Académie des sciences.
Il entre au conseil d'administration du collège royal scientifique de Greenwich.
Il est respecté par les universités.
Il devient une somme de sommité du monde de la géographie, au moins autant que de la navigation, il faut le dire. Alors, si on devait résumer les trois voyages de Cook. Premier voyage, 1768-1771. Quel est l'objectif là?
Le premier objectif de Cook, c'était établir un observatoire à Tahiti pour observer Vénus. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de... Eh bien justement, on veut, par la méthode qu'on appelle dite des distances lunaires, on veut mesurer exactement les latitudes, les longitudes. Et pour cela, comme Vénus sera observée de toute la Terre, eh bien on pourra comparer les observations. Pas de veine, la météo est couverte, etc. Donc l'observation
c'est trop nuageux, donc on n'arrive pas à voir Vénus.
Mais la deuxième chose que doit faire Cook, c'est cartographier et explorer le Pacifique. Et donc c'est la deuxième partie de son voyage.
Le deuxième voyage, c'est 1772-1775.
Alors, là, il y a deux missions fondamentales. Bon, d'abord, revérifier ce qu'ont fait les Français. On va quand même pas les laisser tout seuls se promener dans le Pacifique. Vérifier aussi ce que disent les Anglais, les Espagnols. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus les Espagnols qui ont plein de découvertes secrètes du Pacifique. Et d'autre part, étalonner les chronomètres. Parce qu'il y a une révolution qui se fait, c'est la révolution des chronomètres qui se fait entre 1760 et 1780, car avec les chronomètres, on va pouvoir déterminer la longitude. En latitude, c'est très facile, mais c'est la longitude. Et tout ça, on revient toujours à la cartographie, mettre au point les cartes, etc. Parce que pendant la guerre d'indépendance américaine, par exemple, le commandant de l'Hermione, la touche Tréville, se trompe tranquillement de plus de 200 kilomètres quand il fait son point, hein, dans la seule traversée de l'Atlantique qui est parfaitement connue. Donc, il y a bien un vrai problème de savoir où on est.
Donc la cartographie. Est-ce qu'on peut dire que dans le troisième voyage, celui que j'ai décrit pour commencer cette émission et qui va s'achever par la mort terrible de Cook, est-ce que ce troisième voyage est un peu plus ethnographique d'une certaine manière?
Alors il est plus ethnographique, mais il y a deux choses. Il y a le troisième point du deuxième voyage, ça a été savoir si oui ou non il existait un continent antarctique. Bon, donc c'est le mythe. Donc on disparaît parce que par exemple beaucoup de savants anglais étaient persuadés qu'il y avait un continent antarctique.
Bah oui.
Bon, donc c'est la mythe du continent austral. Donc il y en a bien un, mais pas où on le pensait. Donc c'est en fait on découvre le vide dans le Pacifique. Et il faut prendre la route. Après, elle remonte plein nord. Plein nord, c'est donc qu'est-ce qu'il y a au milieu du Pacifique? Mais en prenant non pas une route est-ouest, mais une route sud-nord.
Transversale, oui, c'est ça. Oui.
En recherchant des vents dont on ne sait pas s'ils existent. Donc, et c'est là que...
La très grande aventure, là, quand même.
C'est pour ça qu'on va revenir toujours au problème de, cette fois-ci, plein nord, le détroit de Bering.
Oui. Est-ce que Cook s'intéressait également aux végétaux? Parce qu'on l'a vu très intéressé par les populations. Il emportait lui-même du bétail, il chassait, il voulait faire manger du morse à ses équipages. On a compris son intérêt pour la faune, etc. Pour la flore aussi, il rapportait des espèces, un peu comme Bougainville?
Oui, alors, il y a deux choses. Je pense que Cook a quand même une obsession utilitaire. Ce qu'il veut, c'est vaincre le scorbut. Et donc, c'est un des meilleurs connaisseurs de toutes les plantes qu'on peut utiliser pour lutter contre le scorbut, notamment la choucroute, etc. D'où le fait qu'il compose des régimes alimentaires qu'il ingurgite de force à son équipage, qui ne lui en est pas reconnaissant, puisque grâce à ça, ils n'ont pas le scorbut.
Oui, oui.
Donc, Cook est un passionné de plantes. Et d'autre part, il a autour de lui des savants qui sont tout aussi passionnés.
Il a une postérité phénoménale, ce Mr. Cook. Hein. Il y a partout des continents entiers, j'allais dire, qui portent le nom de Cook. On pense aux îles Cook, ça, évidemment. Il y a le détroit de Cook, il y a le glacier Cook, etc. Il a laissé son nom
un
peu partout.
Sur la Lune, il a même une montagne Cook qui a été baptisée en son honneur, etc. Et puis pour nous, ça ne manque pas d'humour quand on mange les conserves Capitaine Cook.
Mais voilà, c'est vrai. D'où vient cette extraordinaire postérité pour un homme qui, somme toute, aura quand même été assez controversé de son temps?
D'abord, c'est le seul qui, à mes connaissances, ait fait 3 tours du monde.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal.
D'autre part, il s'est entendu avec pratiquement toujours tous les savants qui avaient à son bord. C'est un découvreur extraordinaire.
Il paraît qu'il aurait même découvert le tabou.
Oui, c'est ce que l'on dit. Le mot tabou a été prononcé à son égard. C'est normal d'ailleurs, puisque quand il est obsédé, et c'est tout à fait à son honneur, par la rencontre entre le blanc qui, quelque part, est un envahisseur.
Incontestablement.
Vous connaissez tous le film Mars Attaque, hein, où on s'attend à ce que les Martiens aient un contact pacifique avec nous, et puis ils démarrent par l'élimination physique. Eh bien, là, c'est la même chose. Imaginez 2 navires qui sont marchands mais armés en guerre, et vous voyez les tribus sur les côtes. Comment voulez-vous ne pas avoir un sentiment de peur quand vous voyez ces bateaux qui arrivent?
Oui.
Donc il en est parfaitement conscient.
Mais le tabou?
Eh ben justement, alors le tabou, il va le trouver à toute une série de circonstances. Et n'oubliez pas que le grand problème, c'est aussi la langue. Parce qu'à Tahiti, on a embarqué un Tahitien qui lui a la langue, mais quand on arrive aux îles Hawaï, on n'a personne qui connaît la langue. Personne qui connaît justement le tabou, ils entendent bien ce mot, ils entendent taou.
Oui, quand ils essaient de faire quelque chose qui a l'air d'être sacrilège ou interdit, les indigènes disent tabou, en fait. Hein.
Alors bon, on se dit qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire?
Ça doit vouloir dire interdit, d'une certaine manière, se dit-on.
Voilà. Ouais.
Et c'est l'origine du terme, finalement, du terme tabou. Merci beaucoup Patrick Vidi, on pourrait continuer longtemps sur Cook, tant son œuvre a été extraordinairement fructueuse. Le mieux peut-être, c'est de vous renvoyer aux différentes biographies de James Cook, et la plus récente, en français s'il vous plaît, est signée Anne Ponce, ça s'appelle James Cook, Le Compas et la Fleur, et c'est édité chez Perrin. Quant à vous, vous nous avez parlé de l'Hermione tout à l'heure, vous êtes en train de mettre la dernière touche, si j'ose dire, puisqu'on parle de l'Hermione, à cet ouvrage sur le navire de la Touche-Tréville.
Oui, d'ici un mois, et j'ai trouvé plein de choses inédites, le rôle d'équipage, le voyage dans l'océan Indien, etc. Et j'étais encore ce matin dans les archives. Dans les archives, on trouve tout.
L'Hermione, Lafayette, la Touche-Tréville, la marine au service de la guerre d'indépendance, ça sortira très bientôt aux éditions Encre.
Dans un instant, Franck, vous répondrez à la question d'Edouard via le site internet europe1.fr qui voudrait en savoir plus sur les origines du parapluie.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, vous répondez à une question d'Edouard, une question qui nous a envoyée sur europe 1.fr. J'habite à la campagne, dans l'Oise. Je sors rarement sans mon parapluie. Pourriez-vous m'expliquer l'origine de cet objet très pratique?
Oh, c'est un objet qui existe depuis plus de 5000 ans. Hein. On en a des traces dans la Chine antique, 3500 ans avant notre ère. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est si le parapluie a précédé l'ombrelle ou l'inverse. Toujours est-il qu'il s'est peu à peu répandu. Au Moyen-Âge, on n'avait pas vraiment de parapluie en Occident. On utilisait des vêtements, vous savez, des vastes capuchons qu'on appelait les chapes de pluie. Le premier parapluie de toile cirée, qu'on peut vraiment appeler un parapluie, il naît, retenez la date, en 1622. Et c'est tout de suite un immense succès. En 1705, donc à la fin du règne de Louis XIV, on invente carrément le parapluie pliant. Quand je dis qu'on l'invente, c'est Jean Marius qui a fait cette invention. Et le parapluie ne va faire que se développer. Ce qui fait qu'au moment de la Révolution française, c'est devenu un accessoire de mode très répandu. Rappelez-vous cette anecdote, hein, en mai 93, quand Thérouanne de Méricourt, la révolutionnaire, est agressé violemment par une foule qui est armée de parapluies. Bon, la forme en U, telle qu'on la connaît avec les baleines, etc., c'est 1852. C'est une invention, et allons-y, et évidemment, j'allais dire, d'un Britannique qui s'appelait Samuel Fox. Monsieur Fox, bah, après tout, en Angleterre, on était bien placé pour inventer le nouveau parapluie, hein, parce qu'il y pleut quand même un certain nombre de jours par an. Ce Samuel Fox va faire fortune, on va adopter sa forme de parapluie partout. Vous savez que l'un de ceux qui en faisait usage, c'est le roi des Français, Louis-Philippe. Et c'était très intéressant, parce que on se moque toujours de Louis-Philippe avec son parapluie, mais ça n'était pas nul. En fait, si Louis-Philippe portait dans la rue un parapluie, c'était pour montrer qu'il était comme Monsieur Tout-le-Monde et qu'il n'avait pas de valet pour tenir un dais au-dessus de sa tête.